monde date d'il y a 15 milliards d'années, Big Bang. C'est faux parce que l'année passée, ils ont une cohorte, c'est un peu moins. 13,9 milliards. Ils ont affiné. Bon, un milliard de plus, un milliard de moins. 13,9 milliards, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est pas une fiction, parce que on le voit. C'est pas des calculs carbone 14 où on fait une. Carbone 14, on fait une extrapolation. On voit que l'isotope, la radioactivité du carbone 14 baisse dans 200 et combien d'années, 250, choses comme ça, baisse de la moitié. On appelle ça l'isotope. Donc on voit, on peut calculer le taux de carbone 14 qu'il y a dans les plantes, dans les ossements, etc. Et tu l'extrapoles. Moi, je sais que maintenant, à notre époque, l'isotope, il baisse de moitié en 265 ans. Donc je peux extrapoler maintenant sur le passé. On dit, ok, t'as une extrapolation, mais qui me dit qu'il n'y a pas eu des phénomènes physiques qui ont fait que ça a changé? Donc ça, on pourra encore discuter. Alors, une chose qui est beaucoup plus solide au niveau scientifique, le Big Bang. Je vois maintenant, dans le télescope, je vois des planètes qui sont éloignées de moi, ont arrivé environ jusqu'à 10 milliards d'années. Ça veut dire qu'elles sont éloignées de 10 milliards d'années-lumière. Ça veut dire que la lumière qui les a quittées, pour arriver dans ma rétine, dans mon télescope, ça a pris 10 milliards d'années de voyage. La lumière voyage à 300 000 km à la seconde. Donc ça fait une paye, hein. Ça c'est très très éloigné, cette étoile. Hein. La lumière de la Lune, on voit la Lune, la lumière qui a quitté la Lune, ça a pris une seconde pour arriver dans notre rétine, dans nos yeux, parce que la Lune est éloignée de 300 000 km. La lumière du Soleil, ça prend 8 minutes. Si quelqu'un maintenant éteint le Soleil, bah, tu as encore 8 minutes à te bronzer. Et dans 8 minutes, tac, ça s'éteint. Donc tu sauras que dans 8 minutes. Le Soleil qui est relativement proche. Les galaxies les plus rapprochées de nous sont déjà à des milliers d'années-lumière, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que pour arriver à la lumière d'une galaxie, autre que la nôtre, pour arriver à notre rétine, ça a pris déjà quelques milliers d'années. C'est-à-dire une chose très, en parenthèse, une chose très intéressante. Que maintenant, la galaxie la plus proche, là-bas, il y a un martien qu'on va appeler Rabbi. Rabbi le martien. Et Rabbi le martien regarde maintenant la planète Terre. Dans son télescope, il regarde un peu tout, tac, il voit une autre galaxie, il regarde la Terre. Et il se trouve maintenant environ à 3200 années-lumière, 3215 années-lumière. C'est-à-dire qu'il est assez éloigné, mais relativement proche dans le cosmos. 3200 par rapport à 10 milliards ou 15 milliards, ça n'a absolument rien. Il voit maintenant la Terre. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Moshe Rabbeinu en train de sortir d'Égypte. La mer qui s'ouvre, il les voit maintenant actuellement où je vous parle, il est sur la planète là-bas qui est toute proche, il regarde la Terre, il voit maintenant et Pharaon qui poursuit Moshe Rabbeinu. Il voit au télescope. Et Ben Israël qui prie. Et la mer qui s'ouvre. Il voit Mahamad Har Sinai. C'est le plus proche, il voit David Amalek. C'est encore plus proche, il voit Maïmonide, Rabbi Akiva, etc.
Une réalité claire. Que le monde a au moins 10 milliards d'années. On ne peut pas dire c'est une erreur. À moins que la réalité n'est plus la réalité. Mais d'après notre réalité telle qu'on la voit, et quand même, voir, c'est plus que croire, c'est plus que calculer au moyen d'isotopes, c'est plus que les couches terrestres, etc. Une réalité, je vois mon télescope, je vois un monde qui est éloigné à 10 milliards d'années. Ça veut dire que le monde a au moins 10 milliards d'années. Kushia, objection. La Torah dit, Dieu créa le ciel et la terre, il y a, en 6 jours, il y a 5765 ans et 8 mois. Et quelques poussières. Alors, les religieux ont toujours des bons tiroussines comme ça, ils ont des solutions comme ça, des petits lapins qui sortent du chapeau. Des lapins rigolos. Premier tirous idiot, il y en a 3 en gros, qui circulent comme ça, des canulars, que les religieux racontent pour essayer de solutionner ce problème. Premier, ils vont dire, c'est marqué que Dieu a créé le monde il y a 5165 ans et les poussières, en 6 jours. Or, durant ces jours-là, il n'y avait pas encore d'astres. Les astres ont été créés que le 4e jour. Donc, quand on dit maintenant 6 jours, ce n'est pas des jours, ce sont des ères. Des ères qui ont duré des milliards d'années. On appelle ça jour pour donner une limite. Mais quand il est marqué le premier jour, Dieu dit qu'il y a la lumière soit et la lumière fut, ça a duré combien de temps que la lumière se fasse? 3 milliards d'années. Après, Dieu, il a créé le firmament. Allez, encore 3 milliards d'années. Bon, et là, on aurait donc une solution possible. Je dis, c'est de la blague, pardon?
Pour nous, 3 milliards d'années.
Comment pour nous?
Pour qui 3
milliards d'années? Oui, quand Dieu, la Torah, elle est écrite, Dieu a créé le monde en 6 jours, tu comprends le mot jour égale ère. Chaque jour égale une ère.
Pour les premiers jours avant les astres.
Oui.
À partir des astres, c'est les jours.
Oui. Et encore, c'est encore plus fort parce que d'après le Talmud, les astres ont commencé à fonctionner que le vendredi. Dieu, le mercredi, les a plantés dans le ciel, mais ils n'ont pas bougé. Le système cosmique s'est mis en marche, en branle, lors de la création du premier homme, c'était le vendredi. Très précisément, une heure très très précise. Viyad, on appelle ça. Viyad. Viyad. Viyad, c'est Vav, 6e jour, Yad, 14e heure du jour. Tu prends le vendredi, ça commence la nuit, tu as 12 heures de la nuit, plus encore 2 heures du jour, 29 heures du matin, 8 heures du matin, là, le système cosmique a commencé à fonctionner. Donc c'est très précis. Avant, c'était planté, ça ne bougeait pas. Donc on peut dire qu'avant que ça bouge, il y avait une autre ère, et chaque fois que c'est marqué un jour, c'est pas un jour, c'est des milliards d'années. Moi je dis, c'est de la blague. C'est de la blague. C'est pas sérieux. Parce que le texte, il dit, il fut soir, il fut matin, yom echad, un jour. C'est marqué un jour. Vous les religieux, quand ça vous arrange, vous allez gommer le mot au jour, vous mettez à la place le mot air. Ah, ça t'a arrangé. Demain, on trouve que c'était des jours. Dis, non, c'est pas des airs, c'est le mot des jours. Ah, pour moi, c'est marqué des jours. Tu t'arranges toujours. On peut pas interpréter la Torah comme on veut. Parce qu'à ce moment, je peux dire n'importe quoi de n'importe quoi. C'est marqué, tu ne tueras point. Je peux dire, il y a des fois dans la Torah qu'on doit lire en questionnement. Mais tu peux lire, tu ne tueras point. Il y a des limites. Le type n'en peut plus. Mitzvah de le tuer. Qui ne voudra point. Lisons maintenant, à nous les religieux, quand ça nous arrange, on peut dire ça peut, hein. On va changer R, jour, jour, R. Tu ne tueras point. T'as la jaguar, les clés dedans, les fenêtres ouvertes, il est sorti. Baltachrit. C'est interdit de ne pas voler dans ce cas-là. Baltachrit, on a interdiction de gâter une chose qui a de la valeur, on n'a pas le droit de passer à côté, d'accord? T'as une mitzvah ici, de ne pas laisser le cadeau que Dieu t'a envoyé. Merci Dieu, la jaguar, les clés dedans. Ça fait tellement longtemps que j'ai pris pour la jaguar, ça, Dieu m'a fait un signe. C'est un lame de Horaïta de ne pas aller prendre la voiture. Tu ne voleras point. Là, c'est une mitzvah de voler. Ça la prendra une bonne leçon pour ce titre. Sans moi, je n'ai pas d'argent. Lui, il a une jaguar, donc il a de l'argent. Donc Dieu est juste. D'accord? Donc, on peut commencer à, si on se permet de traduire les choses comme on veut, on arrive à n'importe quelle
absurdité.
Donc, la solution des religieux que le mot jour signifie air, elle est refutée. C'est marqué des jours, donc ce sont des jours de 24 heures. Il fut soir, il fut matin. Preuve en est que dans le Kiddush, le vendredi soir, on dit Yom HaShishi, 6e jour, et Dieu a terminé l'action des cieux, etc., et le Shabbat est rentré. Vu que le 7e jour, Dieu s'est reposé, nous aussi on se repose. Si tu me dis maintenant que les jours de création, ce n'était pas 6 jours, mais des aires de milliards d'années, on aurait un Shabbat tous les milliards d'années. Or, Baruch HaShem, on a un Shabbat tous les 6 jours. Ça prouve que les 6 jours de création sont des jours de 6 jours de 24 heures. Première solution refutée. Deuxième solution rigolote des rabbins. Ils disent, il y a eu d'autres mondes avant. Il y a d'autres mondes. Ce monde n'est pas le premier monde. Donc, ce que tu vois maintenant, le Big Bang, c'est un autre monde qu'il y a eu. On voit bien que c'est, premièrement, on voit que c'est bien d'autres mondes ici. Alors on va dire, ils disent ça pour Lucie, pour les dinosaures, il y a eu d'autres mondes qui ont été détruits, et là c'était refait, et c'est des vestiges du monde d'avant. Alors c'est vrai qu'ils ont un appui, c'est Tikkuné Zohar, Rabbi Shmuel Ben Yochai a écrit le Zohar, Et il a écrit aussi après 70 tikkunim, 70 commentaires des permutations du mot Bereshit. 70 façons de lire le mot Bereshit. Et une des permutations, c'est Bécheérit. Bereshit, tu peux lire, tu permutes les lettres, ça fait Bécheérit, avec un reste. Bara Elohim Tachamayim et Taharet. Dieu a créé le ciel et la terre. Avec un reste, dit Rabbi Shlomo Bar Yochai, sache, avant ce monde-là, il y a eu 26 autres mondes. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Donc, c'est quoi les autres mondes? Le milliard d'années, ça date, ce sont les mondes antécédents, avant notre monde. Fausse solution. Canular. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de mondes spirituels. Après, il y a un avis, le Ramban, qui dit qu'il y a eu d'autres mondes matériels, mais la majorité des avis, en tout cas d'après la Kabbalah, c'est très clair, il s'agit de mondes spirituels. Dieu a créé des mondes qui sont des mondes qui tombent bâtis sur le din, il a vu que ces mondes ne pouvaient pas tenir, alors pour finir, il a créé un monde où il y a aussi le Rahamim. D'accord? C'est notre monde à nous. Ce sont des mondes spirituels, pas des mondes matériels. Donc il n'y a ni dinosaures, ni Lucie, ni vestiges, ni nonos, ni rien du tout. Troisième canular que racontent les religieux pour trouver une solution aux 15 milliards d'années, ils disent Dieu a créé le monde vieux. On voit bien que le premier homme a été créé adulte, à l'âge de 20 ans. Il n'y a pas une histoire que le premier homme a été créé bébé, on l'a donné à téter, il a grandi, c'est sa bar mitzvah, et un beau jour Dieu lui a parlé. Le premier homme a été créé le vendredi, adulte. Après on a sorti une femme, adulte. Même jour ils ont eu des enfants. Ce n'était pas des bébés. Donc, comme Dieu peut créer un truc adulte, qui est tout jeune, qui date d'il y a 2 secondes, est-ce que c'est un problème pour Dieu de créer un monde qui a l'air d'avoir 15 milliards d'années, mais qui en a en fait que 5765 jours, 5 ans et des quelques mois et quelques jours?
C'est un monde bête,
celle-là. Hein?
C'est un monde bête, celle-là.
C'est la plus bête. C'est la plus bête. Pourquoi la plus bête? Parce que ça veut dire que Dieu, il a fait une blague terrible au monde. Dieu est smart. Dieu il a créé un monde qui a l'air très 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 vieux. Et il veut que tout le monde, tous les scientifiques, tout le monde rentre dans le panneau. Et il fait, il est dans le ciel, il se souvient. Il y a les articles de presse qui sortent sur le cosmos, on a maintenant Hubble est parti, le monde est 10 milliards d'années. Et Dieu se fout, se tord de rire dans le ciel en disant, la bonne blague que j'ai faite. Le monde n'a que 5750 ans des jours, et puis regardez comme j'ai bien fait une blague que dans les télescopes on voit. Il y avait un grand chacham juif, pas religieux, mais profondément croyant, qui s'appelait Einstein. Il a dit, Dieu ne joue pas au dé avec le monde. Il n'y a pas de blague. C'est sérieux, c'est sérieux. De plus, on devrait dire que quoi? Que si le monde est, comme dit la Torah, n'a que 5765 ans, et il a l'air d'avoir 15 milliards d'années, donc Dieu, pour que le panneau soit bien fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des faux dinosaures, des faux nonos, eaux de dinosaures, qui n'ont jamais existé. Il n'y a eu ni dinosaures ni rien. Il a créé des faux os de dinosaures, des faux os de, des faux os, faut dire, de Lucie, des faux hommes de Néandertal qui n'ont jamais existé, pour que le panneau soit bien, que tout le monde rentre dans le panneau bien comme il faut. Regardez. Il est impossible que le monde date d'il y a 5765 ans et des poussières, vu que je trouve maintenant, hop, Lucie, 300 millions d'années. Et Dieu, dans le ciel, il se tord de rire parce que c'est une blague. Lucie n'a jamais existé. Il a mis exprès les eaux de Lucie. Et Ashgara, il a fait qu'ils ont découvert ça. Et hop, ils ont découvert Lucie. Et Dieu, là, Baruch HaShem, ils sont tout dans le... C'est pas sérieux. C'est pas sérieux.
Oui, sérieux, pardon.
Que Dieu a fait une grosse blague.
Pas une blague, mais simplement pour renforcer le Yetzera et faire croire justement à un mensonge. On dit souvent que Dieu, il dit vous-même que Dieu, si le mensonge il avait l'air aussi, il avait l'air faux et que la vérité elle avait l'air vraie, personne n'irait dans le mensonge. Et ça fait que renforcer justement le mensonge.
Ouais. Ouais. Mais c'est trop gros. Que les hommes ont inventé. Les hommes ont inventé. Il y a une force de mensonge et l'homme peut aller dedans. Mais Dieu ne va pas te faire maintenant te tromper en te disant il y a déjà un grand mensonge, c'est que le monde on a l'impression que le monde il a 15 milliards d'années. Alors, on a un problème, 15 milliards d'années, la Torah dit 5700 ans, c'est quand même un rapport de 1 sur beaucoup. Hein. Donc on a déjà un gros problème. Dire que Dieu maintenant, il a fait le piège encore plus gros, qu'il a mis des faux, c'est Dieu serait un menteur, il a mis des faux hauts de dinosaures pour que les gens se trompent. Dieu est un menteur. Ça ne tient pas la route. La solution, à mon humble avis, C'est pas mon humble avis, c'est l'avis aussi de grands scientifiques religieux. Mais c'est une chose que n'importe quel scientifique aujourd'hui ne peut pas ne pas accepter, parce que c'est de la science pure. C'est la relativité. Il existe les lois de relativité, c'est la relativité mécanique, c'est quoi ? C'est le fait que lorsque vous prenez l'ascenseur, vous êtes en train de monter dans l'ascenseur avec quelqu'un, mais vous parlez comme si les deux vous êtes immobiles, alors que vous êtes les deux en mouvement. Par exemple, nous maintenant, la Terre est en train de tourner à une vitesse de quelque, je ne sais plus, à 2200 km à l'heure. On n'a pas l'impression, parce qu'on est tous ensemble, donc relativement à nous-mêmes ici, on est immobile. L'exemple que je prends toujours, c'est le suivant. L'autre jour, j'ai pris l'avion, et l'hôtesse m'a servi un verre de thé dans l'avion. À quelle vitesse ? Donc j'étais avec mon verre de thé, vide, elle verse maintenant, depuis le pot de thé, dans mon verre. À quelle vitesse est-ce qu'elle me verse le thé dans le verre ? Environ à 1 km à l'heure. Peut-être si elle est rapide, à 2 km à l'heure. Mais si elle fait plus vite que 2 km à l'heure, le thé va gicler dans ma figure. Et moi, je suis un bon client de Elal, donc je vais faire une plainte à Elal. C'est quoi vos hôtesses qui me gicle du thé brûlant sur la figure ? Figurez-vous que je passais justement au-dessus de la Grèce, et là-bas, il y avait un berger grec qui regardait justement l'avion d'Elal. Et qu'est-ce qu'il voit, le berger grec, il a des jumelles ? Il voit mon verre de thé passer à 900 km à l'heure. Une question se pose, à quelle vitesse le thé a-t-il été versé dans le verre ? À 2 km à l'heure ou à 900 km à l'heure ? Réponse, les deux sont vrais. Tout dépend du référentiel. Pour le berger, c'était à 900 km à l'heure. Pour moi et l'hôtesse, dans notre référentiel qui est l'avion, c'était 2 km à l'heure. C'est une chose très très simple. On est d'accord là-dessus ? Ça, c'est très longtemps que la science connaît. On appelle ça la relativité mécanique, au niveau des mouvements mécaniques. Vient Einstein en 1907 et découvre la relativité générale. Et il dit comme ça. Il dit... Une chose que j'ai découvert beau dernièrement, écrit dans le Ramban Nachmanide, dans les premiers chapitres de Bereshit, quand il parle de la création du monde, il dit une chose phénoménale. C'est phénoménal. J'ai pas le temps dans les séminaires d'en parler, c'est phénoménal, parce qu'il dit qu'au début du monde, Dieu a créé une matière extrêmement fine, un petit point de matière, qu'on appelle ça Ayuli. Et cette matière, le monde entier a été créé. Il y a eu un éclatement de la matière. Plus clairement, j'ai une lettre de Maharo Abraham Vital qui a écrit ça il y a 500 ans. Il y a eu un petit point qui est sorti de l'infini. Ce petit point-là, tout le monde, il a éclaté, il y a eu le vide. Il était à l'intérieur du vide et il a éclaté, il a rempli tout le vide. Il dit comme quand on jette une pierre dans l'eau, ça fait des ondes comme ça, tout cela est parti comme ça, la lumière. Et on se dit aujourd'hui le Big Bang. Au début, tu avais une petite boule de... Pas de matière, eux ils disent. Comme nous on dit, c'est une matière très fine, on dit Ayuli, c'est pas de la matière, dit le Ramban. C'est pas de la matière, c'est le... Avant la matière, ils appellent ça du magma. Parce qu'ils avaient réuni dans ce... Alors, quand j'étais jeune, on disait une boule de ping-pong. Aujourd'hui, ils ont réussi à calculer jusqu'à 1... puissance moins 46 secondes. Donc tu fais 0,0, tu mets 46 zéros et 1 de 1 seconde. Qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là ? À ce moment-là, toute la matière de l'univers est réunie dans un petit grain beaucoup plus petit qu'un millimètre. Toute la matière est là. À une température de 10 milliards de milliards de degrés. 10 puissance 19 degrés Celsius. Une température énorme. Jusqu'aujourd'hui, le résidu de température du Big Bang. Deux scientifiques anglais, je me souviens bien, un s'appelle Wilson, j'ai oublié son nom, qui ont reçu le prix Nobel, ils ont découvert l'onde de choc du Big Bang, le résidu de température du Big Bang dans l'univers. On sait que le zéro absolu, c'est moins 273 des poussières. Or, dans l'univers, aux endroits où il n'y a aucune source de chaleur, on n'arrive jamais à moins 273. Zéro absolu, on arrive environ 3 degrés au-dessus. Comment ça se fait ? C'est le résidu de température du Big Bang. C'est comme si maintenant tu as un radiateur, tu laisses allumer, tu l'éteins. Il reste encore chaud à un certain moment dans la chambre. Ici, on a un radiateur tellement puissant, il y a 15 milliards d'années, il était tellement chaud que même quand on l'a éteint, il y a encore un peu de chaleur dans l'univers de ce radiateur. On parle très peu de chaleur, on parle à moins de 70 degrés, d'accord? C'est très 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 froid. Mais là encore, c'est encore un peu plus froid que le froid absolu, le plus froid qu'il puisse y avoir. Donc, le Ramban dit qu'à la base, il y a une petite boule duquel sort tout le monde entier. Et chose stupéfiante, c'est ce qu'a découvert Einstein en 1907, il dit que le temps a commencé à ce moment-là. Parce qu'il ne peut pas y avoir de temps avant qu'il y ait la matière. Ce qu'Einstein a appelé l'espace-temps. Einstein a découvert que le temps aussi est relatif par rapport à la matière. Le temps que nous croyons être une chose qui est linéaire. Nous croyons que le temps est une chose qui ne change jamais. Chaque minute reste comme une minute d'après. C'est vrai, moi je viens de Suisse. En Suisse, l'économie suisse est basée sur la linéarité du temps, parce que si le temps il commençait à zigzaguer, ben, les montres ne seraient plus à l'heure et la Suisse ferait faillite. Donc, Baruch HaShem, le temps est toujours le même partout comme il faut. Einstein dit oui, mais ça dépend comment. Dans quel contexte de matière le temps est influé par la matière. Si tu veux maintenant te déplacer très rapidement dans la matière, tu vas influer sur le temps. Il y aura une dilatation, une contraction du temps. Si tu vas être proche d'un centre de gravité très très fort, alors ça va influer sur la matière. Je ne pas trop doucher la caméra, excuse-moi. Ça risque d'influer sur la matière. Que la matière, pardon, le fait que tu es près d'une grande source de masse, une masse, d'un champ de gravitation extrêmement fort, ça va influer sur le temps, que le temps va commencer à se dilater, va être beaucoup plus lent. Vous avez quelques exemples tout de suite. Quoi qu'il en soit, cette découverte que le temps est lié à la matière a été découverte par Einstein en 1907. Nous, on l'a dans nos écrits du Ramban. Déjà, ça a été écrit il y a 800 ans en Espagne, d'accord, par le Ramban. Et la source, c'est la mystique juive. C'est ce que disent aujourd'hui les grands scientifiques sur les émissions sur le Big Bang. On lui demande, et avant le Big Bang, ils répondent, il n'y a pas avant. Parce que pour dire avant, il faut dire qu'il y a du temps. Or, le temps commence qu'avec le Big Bang. Donc, c'est une question qui n'est pas une question. Donc, c'est très dur pour nous de comprendre c'est quoi qu'il n'y a pas de temps. Donc, chez nous, on est habitué au temps. On ne peut pas s'imaginer qu'on est hors du temps. Mais pour un scientifique calé, il peut comprendre que le temps est lié à la matière. Si la matière, il y a temps. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. Donc, le temps commence avec Big Bang. Avant, il n'y a pas de mot avant, parce qu'il n'y a même pas la notion de temps qui existe. Cela est marqué très clairement dans nos écrits à 800 ans. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? On doit commencer la prière? Alors, ça sera le premier épisode, et on continuera la prochaine fois, une série de cours, peut-être j'aimerais ma doc de la maison sur l'homme de Néandertal, des choses passionnantes. Alors, prochain cours,